la parole du jour avec le Père Willem.
Être, devenir couple. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Ces paroles du Christ, rapportées par l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, peuvent s'appliquer au mariage. Mais il faut, pour le comprendre, préciser le sens à donner à joug, J-O-U-G, joug. Il s'agit, comme on le sait, d'une pièce de bois permettant d'atteler généralement par deux des animaux de trait. Sous nos cieux, souvent des bœufs, en exploitant au mieux leur force. Dans la langue ordinaire et par métaphore, le mot a pris une nuance péjorative. Il désigne une contrainte morale ou matérielle qui pèse lourdement sur celui qui l'a subi, en entravant sa liberté. Alors dans ces conditions, personne n'a évidemment envie de se placer sous un joug quel qu'il soit, y compris celui du mariage ou du Christ. On déleste par toutefois le terme de cette nuance péjorative en adoptant, si l'on peut dire, le point de vue des bœufs. C'est massif et costaud, un bœuf. Et pour des bestiaux de ce genre, la pièce de bois ne doit pas peser bien lourd. Mais ils ne sont pas toujours très malins ou clairvoyants, les bœufs, surtout si on les met par paire. En admettant qu'ils décident alors de tracer un sillon sans que leur soit en même temps fourni un outil sobrement contraignant, un joug pour synchroniser leurs forces et réguler leurs capacités, est assuré que chaque bœuf tirera dans une direction différente. Et le couple de bœufs qui, sur le fardeau, somme toute léger du joug, aurait pu s'engager dans un beau parcours, se fatiguera inutilement, s'entrechoquera, divergera et finira par s'éparpiller dans la nature. Voici donc le témoignage d'un jeune époux que j'ai beaucoup apprécié. « J'ai la chance, dit-il, je dis bien la chance d'être catholique. » Et il précise, « Je n'ignore pas que cette affirmation peut surprendre dans notre horizon culturel où le catholicisme est majoritairement considéré comme quelque chose de triste et peu appétissant. Il serait hors de propos d'encombrer ces réflexions par une défense générale du catholicisme et une présentation de ce qui constitue à mes yeux ses beautés, joies et avantages. Je considère que cette religion de Jésus-Christ auquel je la dois, c'est quelque chose de difficile. C'est constitué donc un joug. Ça s'est constitué ainsi un joug qui a permis à mon couple d'avancer droit et d'exploiter au mieux, de façon matrimoniale parlant, les forces et les capacités dont mon épouse et moi-même nous disposons. Selon le catholicisme, le mariage est un sacrement, c'est-à-dire un signe sacré, ou si l'on préfère, très précieux, institué par le Christ et touchant une dimension essentielle de l'existence. Il produit et augmente en ceux qui le reçoivent quelque chose de bénéfique pour eux dans la situation où ils se trouvent, qu'on ne voit rien de magique là-dedans. Non, surtout pas. comme celle des autres sacrements, l'efficace du sacrement de mariage que se donnent les époux en échangeant leur consentement n'a aucun rapport avec les effets ou les pseudo-effets d'un quelconque abracadabré qui ferait jaillir, on ne sait comment, un lapin d'un chapeau, ni avec l'espoir superstitieux placé en des incarnations rituelles supposées provoquer, par exemple, la pluie ou le beau temps. L'efficace du sacrement de mariage est celle d'un acte, oui, un acte de langage, et s'explique par le fait que certaines paroles ont été prononcées par certaines paroles des personnes qui ont parlé dans certaines circonstances. Risquons une analogie. Si de façon délibérée et réfléchie, je dis à mon voisin, à un voisin, avec lequel j'ai jusqu'alors entretenu de cordiales salutations et relations, si je lui dis « tu as une tête de nœud », le monde est ainsi fait que l'efficace de cette affirmation est d'instituer un nouveau rapport inamical entre mon voisin et moi et nous engager dans un processus qu'a toute chance de conduire à la bouderie, aux injures, voire au coup. De même ou à peu près, de façon délibérée et réfléchie, un homme et une femme s'engageant solennellement devant Dieu et devant les hommes, à s'aimer l'un et l'autre dans un cadre défini par certaines conditions, si cet engagement est contracté de façon responsable et mûrie, si ceux qui s'y souscrivent se sont donné les moyens de le prendre au sérieux et s'emploient sérieusement par la suite à se doter de moyens d'y rester fidèles, alors tout cela engage les époux dans un processus et une dynamique qui ont des chances raisonnables, c'est évidemment pas automatique, à mener une vie conjugale durable et heureuse. C'est là une des modalités d'action de ce que les théologiens nomment « grâce ». C'est une façon optimale d'épouser, si l'on peut dire, et de déployer dans un couple la vie même de Dieu, qu'on peut aussi, avec la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16, et Spinoza, ah, le grand philosophe, appelait ainsi l'amour ou encore la vérité. Oui, car Dieu est amour, accoutumé, blasé, désabusé, frappé de cécité intellectuelle, en somme, il ne serait pas inintéressant de rechercher pourquoi nous ne percevons guère ce qu'a d'extraordinaire, d'inouï même, cette pépite biblique, un des sommets de la révélation chrétienne. Dieu est amour. On peut l'entendre tout ingénument comme les mystiques et les cœurs purs, et ce doit être magnifique. Mais c'est difficile aussi pour ceux qui n'ont pas l'âme mystique ou le cœur pur. On peut entendre cette affirmation de façon plus concrète en tant, par exemple, qu'elle concerne ceux qui vivent dans l'amour conjugal, où il y a de l'amour, Dieu est présent. Si nous nous aimons, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. L'amour est la part divine de nos êtres. Il divinise le réel à proportion de sa plénitude, sa force, son intégrité. Plus encore, en nous aimant de notre mieux, nous contribuons non seulement à améliorer le monde, mais aussi, en un sens, à perfectionner Dieu lui-même. Oui, vraiment. C'est vraiment époustouflant et motivant quand on y pense. Nous croyons en Dieu, non pas seulement à Dieu comme à un objet posé en face de nous, mais nous croyons dans Dieu, englobé en lui, comme dans une puissance d'amour immense qui nous précède, nous pousse et nous porte avec laquelle nous devons chercher à coïncider autant que notre condition d'être fini le permet. »